Radio Time.
Bienvenue sur
Fréquence à jour.
Bonjour et bienvenue sur Radio Time Fréquence à jour. Aujourd'hui, émission spéciale handicap. Au programme interview, accident tragique et discrimination sur terrain sportif. Tout de suite, une interview de Johan Maïstre, nageur en situation de handicap, interviewé par Léo, Charles et Mika.
La rubrique sport.
La rubrique
sport active.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Johan Maïstre, jeune nageur handisport de 30 ans, originaire de l'Ardèche mais qui habite aujourd'hui à Grenoble.
Nous avons préparé quelques questions pour en savoir plus sur comment il vit son handicap dans le sport de haut niveau.
Bonjour Johan, nous sommes trois élèves du collège de Vallon-Pont-d'Arc, Léo, Charles et Mika. Merci de nous permettre de vous poser des questions.
Ouais, bonjour, je suis à votre disposition. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez.
Pourquoi et quand avez-vous commencé la natation ?
Alors j'ai commencé la natation en 2009, quand la piscine à la Blachère a ouvert. Et j'ai pas eu trop le choix. C'est ma mère qui m'a inscrit de force là-bas, parce qu'avec mon handicap, je pouvais faire quasiment aucun sport. Et que la natation, vu que c'est un sport où on touche pas le sol et qu'on est un peu porté, elle m'a mis là-bas. Okay. Donc j'ai commencé en loisir pendant quelques années. Et j'ai commencé la compétition après, on va dire, 2 années d'études. Donc quand j'avais 20 ans, après j'ai commencé très très fort la compétition.
En quoi consiste votre handicap ?
Alors moi, j'ai une atrophie de la jambe gauche qui est très compliquée pour marcher, pour courir, pour sauter, pour faire des choses comme ça. Et là, la natation, c'est clairement le sport parfait.
Êtes-vous handicapé de naissance ?
Je suis pas handicapé de naissance. J'ai déclenché ma maladie quand j'avais à peu près 2-3 ans. Mais c'est tout comme, parce que j'ai aucun souvenir d'avant. Donc en fait, j'ai toujours grandi avec mon handicap.
Quel est votre palmarès de natation ?
Mon palmarès, c'est je suis à peu près, j'ai dû avoir au moins une quinzaine de titres de champion de France. J'ai battu plusieurs records de France en handisport. Et j'ai actuellement aussi 2 médailles en Coupe du Monde, 2 médailles de bronze.
Où et à quelle fréquence vous entraînez-vous ?
Ça dépend aussi des périodes de ma vie. Mais en moyenne, je suis à peu près entre 6 et 8 entraînements par semaine. Quand j'étais vraiment, quand j'avais environ 25 ans, je faisais 8 entraînements dans l'eau. Là, maintenant, j'ai un peu plus décalé. Je fais à peu près 3-4 entraînements dans l'eau et je fais à peu près 2-3 entraînements de musculation.
Quelle est votre spécialité en natation ?
Ma spécialité, c'est vraiment du sprint. Là où je me sens le mieux et là où je suis le meilleur, c'est le 50 mètres nage libre. Après, par extension, je peux faire du dos et de la brasse aussi sur des courtes distances. Mais ce que j'aime vraiment, c'est le 50 mètres nage libre et 100 mètres nage libre. Donc vraiment, c'est pour ça que la musculation, c'est hyper important, parce que c'est vraiment que de la force et de la puissance.
Pensez-vous avoir votre place dans la natation ? Est-ce que c'est compliqué, quand on est porteur de handicap, de faire du sport de haut niveau ?
Je pense que forcément, quand il y a un handicap, c'est toujours plus compliqué pour faire du sport. Mais après, il faut trouver avec son handicap le sport qui nous plaît le plus, qui est aussi un peu adapté au handicap. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, franchement, autant se faire plaisir. C'est hyper important de faire du sport et... Pour ma part, heureusement qu'il y a eu la natation, heureusement que la piscine a ouvert à la Blachère, on va dire.
Pensez-vous qu'il y a une différence entre un athlète handicapé et un athlète valide dans le quotidien, dans l'entraînement et dans le mental ?
Alors dans les entraînements, ça dépend à quel niveau. Je pense que quand même globalement, par exemple pour un championnat de France en handisport, on s'entraîne un peu moins que pour quelqu'un qui est en valide. Par contre, à très haut niveau, c'est-à-dire que quand on parle des 8 meilleurs mondiaux, les 8 meilleurs mondiaux, ils s'entraînent pareil, que ça soit handicapé ou valide. C'est quasiment un boulot professionnel. Donc, ils s'entraînent toute la journée. Et là, pour moi, il n'y a quasiment aucune différence pour le très haut niveau.
Comment fonctionne la classification en handisport et dans laquelle êtes-vous ?
Alors, en handisport, c'est un peu compliqué. Actuellement, on a 14 classifications pour la natation. Il y en a 10 qui sont liées au handicap physique. C'est-à-dire que dans la 10e catégorie, on a le handicap le plus léger. Et dans la première catégorie, on est très lourdement handicapé. Et c'est souvent une cotation. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a, je sais pas, une main ou un avant-bras ou un bras entier complet qui est touché, on descend de catégorie. Donc plus on a des parties du corps qui sont touchées, et plus on descend en catégorie. Moi, vu que j'ai actuellement qu'une jambe qui est touchée, je suis dans la catégorie 9 sur 10. C'est-à-dire que je fais quand même partie des gens qui sont le moins touchés dans le handisport. Et derrière, il y a des catégories 11, c'est pour les non-voyants. 12 et 13, c'est pour les malvoyants. C'est-à-dire qu'il faut quand même être, je crois, un dixième corrigé des yeux. Donc, c'est très handicapant. Et 14, c'est pour tous les handicaps mentaux. C'est-à-dire ceux qui ont, je crois que c'est mesuré avec le QI, ceux qui ont moins de 70 de QI, ils peuvent concourir dans cette catégorie. Et bien évidemment, il y a un handicap minimal. C'est-à-dire que même pour être dans la dixième catégorie, il faut quand même avoir souvent un pied ou une main en touché ou en moins.
Pensez-vous pouvoir vivre sans nager ?
Moi, actuellement, bah, vu que c'est devenu mon sport et que c'est là où je suis quand même très bon, je pense que je nagerai toujours. Après, le haut niveau, c'est sûr que j'en ferai pas toute ma vie. Mais nager après pour le plaisir, ça, je pense que je nagerai tout le temps.
Recommanderiez-vous à un jeune porteur de handicap de se lancer dans le sport de haut niveau ? Pourquoi ?
Bah, déjà, je pense qu'on soit handicapé ou valide, je pense que c'est très important de faire du sport. Hein. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, c'est quelque chose qui apporte énormément de choses. Et après, franchement, se lancer dans le haut niveau, il faut vraiment être déjà un peu différent, il faut aimer la compétition. Faut aimer se faire mal, aimer battre les autres. C'est quand même un autre état d'esprit le très haut niveau. Donc ça c'est pour les gens qui veulent vraiment performer et repousser ses limites. Mais sinon déjà faire du sport c'est très très bien. Faut encourager ça à tout le monde, hein, qu'on soit handicapé ou pas. Hein.
Avez-vous un message à faire passer aux jeunes athlètes?
Aux jeunes athlètes, bah, tout simplement de se faire plaisir. Je pense que c'est la base du sport et du haut niveau. On se lance pas dans le sport de haut niveau ou si on se fait pas plaisir, faut faire des choses qu'on a envie et des choses qui nous font vraiment vibrer. Donc le but, c'est déjà de se faire plaisir.
Bah, merci pour d'avoir répondu à nos questions et bonne chance.
Merci beaucoup.
Bah, de rien, hein, merci. Hein. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour ces informations sur cette carrière passionnante. Passons à la suite avec une histoire malheureusement bien connue, une affaire de discrimination sur stade.
L'autre, c'est moi. Chacun de nous a sa façon de penser, de marcher. Cette petite tache de naissance, un accent, une couleur de peau, une différence, mille différences. Une allure, un comportement, des envies, une identité intime. Cet extrait provient du livre « Discrimination » de Emma Spark. La discrimination, c'est le fait de traiter différemment une ou plusieurs personnes à cause de leurs différences, comme par exemple leur physique,
leur religion, leurs origines et bien trop d'autres choses.
Il y a des exemples historiques très connus comme Rosa Parks, âgée de 63 ans en 1965, qui a lutté contre le racisme anti-noir dans les transports publics en s'asseyant sur une place destinée aux Blancs.
Un autre exemple qui fait date. En 2009, le footballeur amateur et capitaine Makan Traoré, franco-sénégalais de 32 ans, a décidé de porter plainte contre Maxence Cavalcante, remplaçant de l'équipe adverse, qu'il a traité lors d'un match de, je cite, « sale nègre, sale singe ». Makan a porté plainte et Maxence Cavalcante a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et une interdiction de fréquenter toute enceinte sportive pendant 2 ans pour injure à caractère raciste. Car rappelons-le, le racisme n'est pas une opinion, il est puni par la loi.
Mais malheureusement, il n'est pas le seul à subir ce genre de discrimination. Même si la discrimination est punie par plusieurs lois, elle reste présente partout et dans la vie de tous les jours.
Mais alors, que faire lorsqu'on est victime de discrimination ?
Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui subit une discrimination, tout d'abord, il faut identifier le type de discrimination. Ensuite, vous pouvez aussi rassembler des preuves, écrits, dates, circonstances. Puis, en parler selon les cas à des associations spécialisées, le défenseur des droits, un responsable hiérarchique dans le cadre scolaire ou sportif. Enfin, dans les cas importants, vous pouvez saisir la justice en portant plainte à la gendarmerie.
Radio Time.
Fréquence à jour.
Espérons juste que ça ne se reproduira pas. Il y a quelques semaines, nos chroniqueurs se sont rendus au Salon du Livre à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Nous écoutons tout de suite Erin, Mathilde et Flora qui ont interviewé la représentante de la maison d'édition Zétoulu. Un nom qui fait sourire pour un sujet qui n'en est pas moins sérieux.
Zétoulu est une petite maison d'édition de Nantes. Elle propose des livres destinés aux enfants de 2 à 12 ans. Cette collection s'adresse aux enfants dyslexiques et allophones, mais aussi à tous ceux qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Pouvez-vous nous présenter la maison d'édition Zétoulu ?
Oui, carrément. Alors en fait, Zétoulu, c'est une maison d'édition qui a 9 ans et on fait des ouvrages pour les plus petits comme pour les ados adultes, pour les aider quand ils ont des troubles de la lecture, des troubles 10, des troubles de l'attention par exemple ou de l'hyperactivité. Et on a de l'album, des premières lectures, du roman junior et du roman grand format.
Pourquoi avez-vous créé Zétoulu ?
Parce qu'on a constaté qu'il manquait quelque chose dans l'édition en France. Aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de ces troubles-là n'ont pas accès à autant de diversité de lecture que les personnes qui sont neurotypiques. Et la fondatrice Sandra était elle-même multidis et s'est rendue compte que beaucoup de livres n'étaient pas adaptés pour elle. Et donc elle a voulu créer et adapter des livres pour tout le monde.
Pour quelle sorte de lecteurs ces livres sont-ils écrits ?
Alors, nos autrices, auteurs, ils écrivent pour tout le monde, ils écrivent pas pour un public spécifique. Nous, c'est la mise en page, ensuite on va la penser pour un public qui est neuro-atypique, donc il y a des troubles, comme on le disait tout à l'heure, de la dyslexie notamment. Mais ça va être un travail éditorial et de mise en page. En fait, ils sont pensés pour toutes et tous. Donc, ils peuvent être pour les enfants ou les adultes qui ont des troubles, comme les personnes qui n'en ont pas.
Qui vous a aidé dans ce projet ?
Alors pas mal de gens. Alors Sandra au début quand même elle a débuté toute seule. Il faut savoir qu'elle a tenu la maison d'édition seule pendant 8 ans et que les gens qui l'ont aidée ce sont les autres maisons d'édition, les autres éditeurs et éditrices qui ont pu lui donner un peu des retours d'expérience. Il y a aussi des gens bien intentionnés dans l'administration française qui ont pu l'aider un petit peu. Il y a aussi des conseils nationaux comme le CNL ou alors la DRAC ou la région à l'époque qui ont pu lui donner des subventions. Et aujourd'hui je dirais que toutes les personnes qui parlent de nous sont des personnes qui nous aident.
Quel est le livre que vous avez préféré éditer ?
Oh, c'est dur comme question. Alors moi je vais dire, je serais un peu biaisée, mais je suis rentrée avec ce livre-là dans la maison d'édition parce que je suis là que depuis un an et demi. Donc je vais dire que c'est Les Atlantes, c'est une duologie en romance fantastique qui a été écrite par Alexine et qui a été illustrée par Sandrine Fourier. Et je dirais que comme c'est le premier que j'ai suivi, j'ai un petit attachement particulier, mais je les aime tous. Mais celui-ci c'était chouette parce qu'on ouvrait aussi la collection ado avec cette duologie.
Quand avez-vous eu l'idée de créer Zétoulu ?
Alors cette idée-là, on l'a eue depuis, c'est Sandra qui l'a eue il y a très longtemps. Elle était aide-soignante avant de rentrer dans l'édition. Et quand elle a mis un premier pied dans ce monde-là, c'était par l'associatif. Et en fait, c'est ce qui lui a donné l'idée, c'était ça. C'était de voir un nombre de personnes éloignées du livre et pour qui c'était pas facile. Et surtout sur sa propre expérience parce qu'elle était elle-même multidis. Donc c'est tout ça qui l'a inspirée à créer ZTL et à aujourd'hui continuer de publier. Notamment pour les ados adultes.
Pourquoi voulez-vous aider les enfants ?
Parce que je pense que déjà Sandra a été elle-même un enfant 10 et du coup mis de côté surtout dans la lecture et je pense au-delà de ça que la lecture c'est un endroit où on peut prendre du plaisir, s'évader, ça peut nous aider à nous construire ou juste à s'enfuir un peu pendant une heure de tout ce qui nous dérange et que c'est trop dommage que parce qu'on est un peu différent, on n'ait pas accès aux mêmes choses que les gens qui ont le droit de lire et donc voilà, c'est pour ça qu'on voudrait aider, après on espère aider mais voilà, c'est notre conviction.
Pouvez-vous nous parler un peu plus des ateliers que votre maison d'édition propose ?
Ouais, carrément. Alors en fait, on a beaucoup d'ateliers différents. Certains sont menés, donc il y a une catégorie menée par les artistes, donc les autrices, les illustrateurs, les illustratrices et les auteurs. Cela, c'est en fait toujours en fonction de leur bouquin. Ils arrivent à tirer un thème et à l'exploiter pour ensuite faire des ateliers d'écriture ou des ateliers de dessin, ce genre de choses. Et ensuite, il y a une deuxième partie d'atelier qui est faite par nous, les membres de la maison, donc par Sandra et par moi. Et ça va être pour parler dyslexie avec le Café 10. Sandra va pouvoir s'exprimer autour de ses ses troubles et de ce que ça a fait pour elle dans sa vie, dans son parcours, et répondre aux questions soit des enfants, soit des adultes dans un cadre de formation. Et ensuite, il y a le Kamishibai autour de la chaîne du livre. Donc avec un Kamishibai, c'est comme un petit théâtre dans lequel pas défile une histoire. On va raconter comment est créé le livre et d'où il vient et quels sont tous les métiers qui sont réunis pour le créer. Voilà.
Merci beaucoup, au revoir.
Oh waouh, c'était passionnant. Je n'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition.
Petite entracte entre deux interviews avec un sujet sur Hélène Keller de Ayana, Marina et Manon.
Radio Time.
La chronique littéraire.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter La Métamorphose d'Hélène Keller. C'est un roman écrit par Margaret Davidson et illustré par Felicita Sola. L'éditeur est Gallimard. D'ailleurs, c'est une histoire vraie, racontant la vie d'une jeune fille, étant sourde, muette et aveugle.
L'histoire se passe aux États-Unis en 1880. Au début de sa jeunesse, Hélène Keller était calme, mais en grandissant, elle commença à devenir agressive et dangereuse. Ses parents ne lâchaient jamais Hélène des yeux.
Puis, la mère d'Hélène Keller tomba enceinte et un petit garçon arriva. Hélène Keller aimait son petit frère, mais ensuite, elle le trouva trop envahissant. Et quand elle voulait aller dans les bras de ses parents, son petit frère était déjà. Donc Hélène Keller se renferma sur elle-même. Et elle resta souvent seule dans sa chambre.
Voici un extrait du livre « La métamorphose d'Hélène Keller ». La page 9 qui explique qu'elle est sourde. Madame Keller était en train de faire le lit de sa fille.
Hélène, appela-t-elle. Hélène. Mais Hélène ne bougea pas.
Madame Keller ramassa un hoquet parmi les jouets et le secoua vigoureusement contre l'oreille de sa fille, qui ne tourna même pas la tête.
Alors sa mère comprit. Cette fois, elle ne pleura pas. Simplement, elle se baissa et prit Hélène dans ses bras. « Mon bébé est également sourd, » murmura-t-elle.
Si cet extrait vous a plu, nous vous invitons grandement à lire le roman.
Nous avons adoré qu'Hélène Keller reste forte malgré qu'elle soit sourde, muette et aveugle. À bientôt.
Restons dans le domaine du livre adapté au handicap. Tiran et Sohan ont rencontré une maison d'édition originale en direct du salon des livres jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Fréquence Ageron.
Nous allons interviewer Olympe Brou qui travaille pour la maison d'édition Les Doigts qui Rêvent.
Bonjour, parlez-nous un peu de votre maison d'édition.
Bonjour, alors notre maison d'édition c'est Les Doigts qui Rêvent. On est une maison d'édition associative qui crée et adapte des livres en braille, donc pour les enfants avec un handicap visuel et avec des illustrations tactiles. Donc tous nos livres sont des livres touchables avec les doigts.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un éditeur inclusif ?
Alors, les éditeurs inclusifs, c'est des éditeurs qui adaptent les livres du commerce qui ne sont pas accessibles donc à des personnes qui ont des handicaps, donc comme de la dyslexie, donc aveugle ou d'autres handicaps. Et nous, notre but, donc les éditeurs inclusifs, c'est d'adapter tous ces grands classiques pour que tous les enfants puissent lire les mêmes choses que les enfants sans handicap.
Quel est votre métier au sein des éditions et pourquoi faites-vous ce métier ?
Alors moi, je suis chargée de communication. Pourquoi je fais ce métier ? Parce que j'adore, on fait plein de choses différentes. Par exemple, je peux gérer les réseaux sociaux, faire des photos, des vidéos, faire des interviews avec des bons intervieweurs comme vous. Je peux faire des salons, je peux passer à la radio, je peux m'occuper du site internet. Et en fait, c'est vraiment polyvalent et c'est ça que j'aime le plus dans mon travail.
Y a-t-il beaucoup de personnes qui sont intéressées par vos livres ?
Alors oui, parce que nous sommes les seuls en France avec une autre maison d'édition à faire des livres en braille. Donc toutes les bibliothécaires, les médiathèques, les parents aussi des enfants avec un handicap visuel sont intéressés parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup d'offres de ce genre de livres.
Pourquoi avez-vous choisi le nom Les Doigts qui Rêvent ?
Alors je pense que ça va de soi, c'est parce que nos livres se lisent avec les doigts et quand on lit aussi des histoires, on fait parler l'imaginaire, le rêve. Donc du coup c'est venu un peu comme ça, donc les doigts qui rêvent.
C'est voilà. Pas mal. C'est vraiment pas mal.
Merci.
Où pouvons-nous acheter vos livres ?
Alors, nos livres, ils sont disponibles sur notre site internet ldqr.org. Ils sont aussi disponibles via les librairies. Donc, vous avez qu'à demander à votre libraire. Et parfois, ils sont pas avec nous, ils peuvent pas nous commander directement. Donc, il faut nous contacter directement. Mais ils sont disponibles dans certaines librairies. Après, ils sont disponibles dans toutes les bibliothèques, avec un fonds accessible et médiathèque. Et donc, voilà. Donc, il y a plusieurs moyens, possibilités de les avoir. Dans les salons aussi.
Est-ce parfois difficile de faire ce métier ?
Oui et non, c'est fatigant, parfois. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait pourquoi on le fait et c'est une belle cause. Et on espère qu'il y ait de plus en plus de livres accessibles et beaucoup moins chers pour tous les enfants.
Pouvez-vous nous expliquer les différentes collections que vous éditez ? Alors la question n'est peut-être pas claire.
Ah si, si. Alors oui, nous on a différentes collections. On a des collections pour les petits-enfants, donc premier éveil. Donc c'est pour vraiment les tout-petits, donc c'est des livres en tissu. On a des collections avec des artistes, donc avec des artistes tels que Laura Catabianchi. Donc ça c'est un peu plus poétique. On a aussi des collections donc Braille, Braille, et à tâtons. Et en fait, c'est en fonction de l'évolution de l'âge. Donc, j'apprends à lire le braille, je connais le braille, je lis seul, je lis accompagné. Et en fait, on va essayer un peu de catégoriser nos livres dans ce genre de collection. Après, on ne peut pas les mettre dans une case parce que chaque enfant est différent et chaque enfant a le temps d'apprendre plus ou moins en fonction de son handicap et de son âge. Mais voilà, on a plusieurs collections et on a aussi des collections outils pédagogiques parce qu'on fait aussi, en plus de livres, on crée des outils pédagogiques pour apprendre le braille, à écrire le braille, apprendre, sensibiliser les enfants au handicap. Et on a des jeux de société en braille.
Voulez-vous nous parler d'un livre en particulier que vous avez aimé ?
Oui, alors je vais vous parler de Bon Voyage Petite Goutte, c'est notre dernière adaptation tactile. Ça raconte l'histoire d'une goutte qui se balade au gré du vent, des péripéties, de l'eau, de l'évaporation. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on a différents types d'illustrations tactiles. On a du gaufrage, c'est-à-dire que quand on va toucher, ça sera en relief, on va pouvoir sentir des petits points. On a aussi plusieurs textures et matières différentes. Et en fait, on va pouvoir suivre l'eau et suivre la transformation de l'eau avec le toucher. Donc c'est un peu complexe à comprendre, mais on a réussi à le vulgariser et à le faire comprendre à tous. Et aussi, il y a de belles illustrations tactiles, notamment le calamar que j'adore. Il est pailleté et tout, donc j'adore. Donc c'est vraiment un de mes livres préférés.
Merci de nous avoir accordé cette interview. À bientôt
sur Fréquence Ajouron.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique et à nos chroniqueurs. On se retrouve dans la prochaine émission. D'ici là, restez curieux.
C'était Radio Time.
Fréquence Ajouron,
présenté par les élèves
du collège de Vallon-Pont-d'Arc.